Salam a dit, Mayuridillahu bi khayran yufaqihuhu fi din. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on parlera un peu de Laylat al-Qadr, comme c'est les 10 dernières nuits. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu wal-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Donc, ce qui signifie, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr, et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibril, sur ordre de leur Seigneur, pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année suivante. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc là, la nuit de Qadr, c'est la grande valeur, en fait. Donc, beaucoup bon, ils disent. Ligne de destin. Pourquoi? Parce que Dieu donne à connaître aux anges des choses qui vont avoir lieu, donc certaines choses qui vont avoir lieu jusqu'à la nuit de Al-Qadr de l'année suivante. Donc Al-Qadr, c'est la valeur en arabe. Donc c'est une grande valeur parce que c'est la meilleure des nuits et elle est khayrun min alfi shahr, c'est mieux que 1000 mois. Donc, dans cette nuit-là, donc est descendu le Coran. Donc, cette sourate imminente montre que la nuit de Al-Qadr, nuit de la grande valeur, possède un grand mérite. En effet, c'est cette nuit-là que Jibril alayhi salam a reçu l'ordre de Allah Ta'ala de prendre le Coran de la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, et de descendre en une seule fois tout le Coran en un lieu béni du premier ciel appelé Baytul Izzah. Nom qui signifie la demeure de la gloire. Allah Ta'ala a spécifié ce mois de Ramadan parmi les autres mois. Dans ce mois béni, le Coran a été descendu ainsi que l'Injil a été révélé à Isa, fils de Maryam. Et dans ce mois aussi, la Torah a été révélée à Moussa, fils de Imran. Donc il est descendu en une seule fois en fait. Parce qu'après c'est pendant 23 ans. Qui est descendu sur le prophète, de Lawh al-Mahfouz jusqu'à un endroit dans le premier ciel qui s'appelle Baytul Izzah. Donc, Wathila ibn al-Asqa rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Unzilati al-Tawratu li sittin madayna min Ramadan, wa unzila al-Injilu li thalatha asharata khalat min Ramadan, wa unzila al-Furqanu li arba'an wa ashirina khalat min Ramadan. Ce qui signifie la Torah, le livre sacré révélé à Moussa en hébreu, fut descendu la sixième nuit de Ramadan. L'évangile, le livre sacré révélé à Isa, donc en araméen, fut descendu la treizième nuit de Ramadan. Donc, et le Coran fut descendu la 24e nuit de Ramadan. Donc la Torah, donc c'est la sixième nuit. L'évangile 13e et le Coran 24e nuit. Donc ça peut être donc n'importe quelle nuit de Ramadan en fait, Laylat al-Qadr. Et cette nuit-là pour le Coran, c'était le nuit du 24 parce que avec le verset qui dit qu'il était descendu pendant Laylat al-Qadr et avec le hadith qui dit qu'il était descendu le 24, donc conséquence de l'analyse c'est que c'était la nuit del Qadr, c'était le 24. Donc l'information du verset avec l'information du hadith, ça donne que la nuit du Qadr, c'est la nuit du 24, c'était cette année-là. Mais le plus souvent, c'est une nuit impaire, comme c'est dans le hadith, et le plus souvent dans les 10 dernières nuits. Et certains savants, ben, ils disent que c'est souvent, c'est la nuit du 27 ou le 29. Certains savants, ils ont dit le 27. Donc, mais ce n'est pas la majorité des savants. Certains savants, ils ont dit c'est le 27. Donc, c'est le grand savant Maliki en fait. Donc à partir de la ayah inna anzalnahu fi laylat al-qadr qui signifie nous l'avons fait descendre pendant la nuit de l'Qadr, et à partir du hadith précité, on sait que le Coran fut descendu pendant la 24e nuit de Ramadan qui était cette année-là la nuit de l'Qadr. Il n'est donc pas obligatoire que la nuit de l'Qadr soit toujours la 27e nuit ou le 29e, mais il en est ainsi le plus souvent. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit faltamisuha fil ashr al-awakhir, qui signifie cherchez-la pendant les 10 dernières nuits. Ceci parce qu'elle a lieu la plupart du temps pendant les 10 dernières nuits et non pas parce qu'il en serait obligatoirement toujours ainsi. En effet, il est possible qu'elle coïncide avec la première nuit de Ramadan ou avec la deuxième ou n'importe quelle autre nuit du mois béni. La sagesse qui réside dans cette indétermination est d'encourager les croyants à veiller toutes les nuits de Ramadan dans l'espoir de se donner toutes les chances d'avoir prié pendant cette nuit bénie. Donc si on fait toutes les nuits, on va forcément coïncider. Donc il convient de faire ainsi. Donc, puis de Bayt al-Izza, Jibril alayhi salam est descendu auprès du prophète, lui apportant la révélation des ayats du Coran les unes après les autres en fonction des circonstances et des événements. Donc, le lendemain de la nuit de la grande valeur de cette année-là, c'est-à-dire le 24e jour de Ramadan, de la première année de la prophétie de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, donc, la journée après, les premières ayats qui furent révélées furent les cinq premières ayats de sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est-à-dire récite ou toi Muhammad اقرأ ici. Donc il est venu quand le prophète alayhi salatu wasalam était à la grotte Hira qui se visite. Donc les gens ils vont 24 heures sur 24 et il y a des gens qui viennent quand tu vas pendant la période du Hajj. Donc une très belle odeur et c'est une petite grotte, c'est pas très grand, mais très très belle odeur en fait. Et Jibril est venu, il a dit Iqra. Beaucoup de gens ils croient que Iqra ça veut dire lit, ça veut dire récite en fait. Iqra ici, ça a le sens de lit, mais ici ça veut dire récite. Jibril il sait bien que le prophète il ne lit pas, il n'écrit pas. C'était pour montrer donc aux mécréants donc que le prophète alayhi salam c'est pas lui qui a composé, parce qu'il faisait beaucoup de poésie, mais c'est pas lui qui a composé, il ne l'a pas copié non plus, parce qu'il l'accusait certains, mais enfin diable, mais il a copié les gens du livre, et certains disaient c'est un poète. Alors donc c'était une réplique contre eux que lui il lit pas, il écrit pas. Et donc, il lui a dit « récite ». C'est ça que ça veut dire « iqra ». Parce que beaucoup, ils vont lire des livres, ils disent « faut t'instruire ». Ils lisent à droite, à gauche, ils disent « iqra ». Alors, c'est pas comme ça. Ils s'égarent souvent, quand on lit à droite, à gauche, on s'égare. « Iqra », c'est-à-dire « récite ô toi, Muhammad, en mentionnant le nom de ton Seigneur qui crée. « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. » Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Iqra wa rabbuka al-akram. Récite ton Seigneur dispense de nombreux bienfaits. Alladhi 'allama bil qalam. Il a appris à l'homme l'écriture. Il a appris à l'homme l'écriture, donc c'est un bienfait de Dieu d'écrire, savoir écrire. Donc et 'allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc les ayats n'ont pas été révélés suivant l'ordre des ayats et des sourates que l'on trouve actuellement dans le Coran. Cet ordre que l'on connaît, le prophète l'enseigna lui-même aux compagnons après que les 23 années de révélation du livre honoré se sont écoulées. Donc c'est le prophète qui a enseigné après cela l'ordre. Cette ayat dit mais elle était là dans telle sourate, cette ayat dans telle sourate. Donc alors, Donc, lorsque le Coran entier fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam on précisa l'ordre des sourates à ses compagnons. Ces derniers n'auront donc pas mis en ordre des ayats du Coran de leur propre chef. Donc, ce n'est pas eux qui ont inventé l'ordre, bien sûr. Alors, donc ça, c'est les premières. Alors, c'est quoi les dernières ayats révélées alors? Donc, les dernières ayats révélées se trouvent dans quelle sourate? Non, c'est pas dans Sourate Al-Baqarah. La dernière ayah révélée au prophète, c'est dans Sourate Al-Baqarah. Donc ça, bon, c'est une culture musulmane important à connaître. Premier révélé, dernier révélé. Et c'est une ayah très importante aussi. Qui sait ce que ça veut dire, la signification? Donc c'est dans Sourate Al-Baqarah. Donc alors, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Donc sourate Al-Baqara, ayah 281. C'est la dernière. Certains pensent aussi « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina » Ici aussi, ce n'est pas le dernier vraiment, c'était vers la fin. « Akmaltu lakum dinakum » Ça veut dire, littéralement, c'est compléter la religion, mais ça veut dire les règles de la religion ont été complétées. Ouais. Donc, parce qu'après cette ayah, il était révélé d'autres versets. D'accord. Donc le dernier c'était wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Donc 281 de sourate Al-Baqarah. Ça c'est le dernier verset. Donc il a une grande signification, c'est quoi? Qui signifie craignez un jour vous allez rendre des comptes, revenir au jugement de Dieu. C'est-à-dire à son jugement. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans la langue arabe, c'est les figures de style par omission, en fait. Majaz hadaf. Sens figuré par omission. C'est souvent utilisé, ça. Revenir au jugement de Dieu. Littéralement, c'est écrit, c'est revenir à Dieu, mais c'est revenir au jugement de Dieu. C'est utilisé en français aussi. On dit le roi il a construit la ville. On dit ils disent ce soir c'est Paris contre Marseille. Mais on a omis quelque chose. Ça veut dire l'équipe de Paris contre l'équipe de Marseille. Ça donc c'est une figure de style, ça s'appelle métonymie ou quelque chose de comme ça en français. Donc en français ça existe, que dire en arabe. Donc faut toujours se rappeler les gens entre guillemets naïfs. Qui vient te dire, ah, dans le Coran, c'est marqué ça, ça, il te sort des phrases en français. Mais en fait, tu dis, il faut bien dire, j'ai vu un traducteur qui prétend que c'est la signification d'un verset. Donc, les gens, toujours, il faut les rappeler, qu'il faut les accompagner à la bonne réflexion. Parce que souvent, ils tombent dans les pièges comme ça, ils disent, ah, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, dans le Coran, c'est marqué ça. Donc, ça a été révélé. Donc, l'époque de gens qui maîtrisaient l'arabe. Donc, comme en français, on voit que si quelqu'un maîtrise le français, il va comprendre ces différentes figures de style, etc. Donc, il faut bien montrer aux gens parce que beaucoup ils se trompent, parce que qu'est-ce qui se passe sur Internet? Il y a une erreur, tout le monde la copie-colle. C'est ce qui se passe en fait. Les gens, ils veulent faire un site, ils veulent faire une application, ils ne se prennent pas la tête. Lui, il ne fait que la technique. Le contenu. Sur Internet. Donc une erreur, elle est propagée à millions, facilement. Donc on le voit. Ah, tiens, voilà, toutes tes traductions, tout le Coran, c'est base de données toute prête. L'autre, il met dans son application, l'autre dans son application, l'autre, et l'autre il l'imprime, il gagne de l'argent, etc., etc. Ça se passe comme ça, réellement, en fait. Parce que les gens te disent, ah, mais beaucoup d'applications. Je dis, attends. C'est une même erreur, mais c'est du copier-coller. C'est ça qui se passe réellement. Moi, je le vois. Moi, je fais de l'informatique, donc je vois. Hop, il y a des sites, ils ont des référencements, et puis ils ont 1 million de visiteurs parce que tout ce qu'ils veulent faire application, vers leur site, ils viennent chez eux. Traduction, traduction toute faite. C'est tout. C'est pour ça, après, on trouve ça. Et après, nous, on se fatigue à expliquer aux gens, attends, non, mais en réalité, c'est un écrivain qui a écrit la phrase, et puis c'est pas un prophète, l'écrivain, il n'a pas reçu la révélation. Donc, et là, ils commencent à mieux réfléchir, les gens. Mais sinon, c'est fatigant. Les gens qui viennent avec plein d'idées, c'est fatigant à nettoyer les idées. Mais c'est important d'avoir une méthode pour montrer aux gens quand même, sans aller loin, mais attends, d'abord, c'est un français, c'est un humain, simple traducteur qui a écrit ça. Donc, ce n'est pas une révélation, donc il faut analyser qu'est-ce qu'il dit à travers donc, des règles religieuses. Donc, arabe, les autres versets, parce qu'il n'y a pas de contradiction, et le Coran ne contredit pas la raison. Donc, ça passe par ces filtres-là. Qu'il ne peut pas, un verset contre son sens, il contredit un autre verset. Et il ne peut pas contredire les règles de la langue arabe, et puis il ne contredit pas la raison. Donc, ça, c'est des points importants. T'as dit quoi? Ellipse, ce que j'ai dit là? Ah, parce qu'il y a. Il y a.
Non, mais l'ellipse, c'est
Ouais. Donc, en tout cas. C'est ça, en fait, c'est sans regret par omission, c'est ça, en fait, en gros. Après, selon ce qu'on a utilisé le tout pour désigner la partie ou la partie pour désigner le tout, le nom de la figure de style il change, en fait, tout simplement. Des fois, on utilise une partie, comme on dit, j'ai 30 têtes de mouton, mais tu utilises une partie, mais tu veux dire tout le mouton. Et des fois, on utilise le tout pour désigner la partie, comme Paris contre Marseille, on a utilisé le tout, la ville, mais pour désigner une partie de la ville qui est l'équipe. Donc la langue linguistique, elle est importante dans la religion. C'est pour ça que tous les savants, ils maîtrisent la langue. Et apprendre la langue, dans l'islam, que ce soit français, anglais, c'est quelque chose de bien. Comme on sait, on ne peut pas se moquer des règles des sciences mondaines utiles. Les maths, tout ce qui est utile, l'ingénierie, la langue. Donc, le langage, ben, ceux qui tombent dans des. Souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas la langue. Et ceux qui ne connaissent pas la langue, tu as du mal à parler avec eux. C'est un problème, de le faire comprendre. Donc, c'est pour ça, c'est important. Donc, ça, la connaissance, le savoir, donc, ça s'appelle des sciences, des obligations d'ordre communautaire dans l'islam. Donc, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Vraiment, c'est un verset très fort. Craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis. Et ils ne subissent pas d'injustice. Voilà le dernier mot, ça c'est très fort. وهم لا يظلمون. Et ça montre donc un grand sens, c'est que tout appartient à Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est un sens important. S'il voulait, il aurait guidé tout le monde, il aurait fait que tous les gens soient croyants. Mais Dieu a voulu que certains y vont au paradis, d'autres y vont en enfer. Il fait ce qu'il veut. C'est une notion importante parce qu'on voit les gens égarés, même certains d'origine musulmane, ils deviennent athées ou deviennent mécréants parce que Dieu, ah, mais pourquoi les guerres, les famines? On a discuté même avec des gens comme ça. Dit, pourquoi ceci, cela? Bah, Dieu fait ce qu'il veut, c'est une notion importante, très importante. Tout appartient à Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé à accorder à l'être humain ce qui est le mieux pour lui. Ça, c'est une notion importante des sunnites, contraire aux sectes Mu'tazila. Mu'tazila, parce que eux, en s'égarant comme ça dans cette tour en fait infernale dans la spirale, voilà, spirale d'égarement, ils se sont dit, bon, eh ben. Et ils sont arrivés à dire, ben, c'est pas lui qui a créé le mal. Alors, vous voyez, c'est lié les notions. Que Dieu le créateur, on revient à la base, Dieu le créateur des corps et de la fantastique. Donc, les actes de bien et de mal, ça rentre dans cette généralité. Après, le bien et le mal, c'est selon ce que Dieu a décrété. Donc, c'est le jugement qui change. Mais que c'est créé par Dieu, ben ça ne change pas, que ce soit bien ou mal. Donc il fait ce qu'il veut. Donc il y en a où ils vont devenir. Ils vont tomber une sorte de mécréance, comme les Mu'tazili, ils vont dire Dieu a créé ceci, mais pas cela. Ou ceux qui deviennent carrément athées, ils vont dire ah, pourquoi il y a le mal donc. Donc vous voyez, c'est une notion importante, c'est pour ça que les savants disent, dès le petit, on enseigne que Dieu a voulu le bien et le mal, dès le jeune âge. On l'enseigne ça. C'est Dieu qui a voulu le bien et le mal. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. C'est-à-dire, tu demandes la protection de Dieu contre le mal, c'est lui qui l'a créé. Ça c'est un verset. Même les Mu'tazilites, tellement ils sont égarés, ils ont changé la récitation de ce verset. Parce que c'est un verset connu. Parce que si tu changes un peu le kasra, tu peux changer le sens, il devient inverse. Ils ont dit min sharrin ma khalaq. Si tu mets une tanwin, ça change complètement. Juste tu rajoutes le kasra, ça fait un sens contraire qui est de la mécréance. Donc vous voyez, important de la langue arabe aussi. Juste tu mets une kasra en plus, ça devient un sens de mécréance. C'est min sharri ma khalaq. Contre le mal que lui qui crée. Et quand tu dis min sharrin, juste min sharri, t'as rajouté min sharrin, tanwin, doublement de la kasra, ça fait contre un mal, ça donne un sens qui est faux, ça donne un sens contre un mal qui ne l'a pas créé. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'ils font le mantazil. Alors que, bien sûr, la récitation, elle est mutawatir. La récitation, c'est notoire, c'est rapporté par plusieurs. Donc, il n'y a aucune récitation rapportée du prophète qui a cette manière, bien sûr, de prononcer. Donc, comme ça, vous le savez, c'est un danger. Donc, il vient avec des gens comme ça, faibles, donc il fait tomber dans le piège. Alors que dans toutes les récitations rapportées du prophète, il n'y a aucune manière de réciter comme ça, bien sûr. D'accord? Donc, la récitation, c'est « Min sharri ma khalaq ». Il n'y a pas de tanwin. Si tu rajoutes cette tanwin, ça change. Comme d'autres ayats, tu remets le fatha à la place de dhamma, ça change aussi. Donc, vous voyez. Donc, min sharri ma khalaq. Contre le mal qu'il a créé. Parce que ma, selon le contexte, le mot ma, ça peut avoir le sens de que, préposition, ou ça peut avoir le sens de la négation. Selon le contexte et comment c'est fait la phrase. Mais ça a le sens de la négation, ça a le sens de que aussi. Donc, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَّمُونَ. Ils ne subissent pas d'injustice. Injustice, c'est impossible celui de Dieu. Alors, c'est quoi la définition? Makassa, déjà, Koulounov, c'est Makassa. Il sera rétribué en fonction de ce qu'elle a acquis. Ça rentre aussi dans le même cadre de croyance que l'être humain, il ne crée pas. Laha Makassabat, ou alayha Makassabat, dans Sourate al-Baqara aussi, vers la fin. Elle a en sa faveur le bien qu'elle a acquis, et contre elle, le mal qu'elle a acquis. Il acquiert seulement, il ne crée pas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloum. C'est-à-dire, Allah vous a créé, et ce que vous faites. Donc, voilà, donc ça montre, chacun il va acquérir en fonction de ce qu'il a acquis, mais Dieu fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire à Dieu, ah mais pourquoi Dieu lui a donné les actes des gens de l'enfer et c'est lui qui châtie. C'est vrai, c'est Dieu qui donne les actes des gens de l'enfer, c'est Dieu qui châtie par l'enfer, mais il fait ce qu'il veut. C'est une notion importante. Hein, que tout l'univers appartient à Dieu, Dieu peut créer l'univers en un instant et l'anéantir en un instant. Donc c'est pour ça, le verset, il dit « Wahum la yuzlamun ». Ils ne subissent pas d'injustice. Car l'injustice, c'est agir en ce qui ne t'appartient pas. Donc, contrairement à ce que, c'est-à-dire l'agrément de celui à qui appartient la chose. Mais tout l'univers appartient à Dieu. Donc ça ne s'applique pas à la définition de l'injustice. Une autre définition de l'injustice, c'est de contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui a le droit d'ordonner et d'interdire. Mais Dieu n'a personne qui ordonne, qui interdit. Donc les deux sens de l'injustice ne s'appliquent pas à Dieu. Donc c'est important de retenir ça, parce que Tu vois des gens, on est dans la propagande généralisée, des gens, ils vivent vieux, ils n'ont pas appris les bases de l'islam. Dans les pays musulmans, avant, on enseignait dès le jeune âge, tout le pays, comme par exemple, on connaît chez nous au Maghreb, dans d'autres pays musulmans. Donc il y avait dans toute, par exemple, Tunisie, dans toute la Tunisie, du nord au sud, il y avait des annexes de Zaytouna, on enseignait Ibn Arabi, jusqu'au sud de la Tunisie. Tataoui, tout ça. Frère, il m'a emmené, son père, il est décédé. Donc il m'a emmené, son père, il dit, on apprenait par cœur. Il apprenait encore, il se rappelait encore. Pourtant, il a fait guerre avec la France et tout, mais il se rappelait encore les vers de Ibn Ashr. Parce que c'est des vers, les savants, c'est intelligent. Pourquoi ils font un vers? Pour que ça reste. Depuis le jeune âge, ça reste. Après, les colonisateurs, ils sont venus, ils ont arrêté l'enseignement, petit à petit, progressivement. Hop, jusqu'à fermer la base en Tunisie. Et dans d'autres pays, ils ont fait pareil. Donc, ce qui fait, les gens ont des notions de base, je trouve, des gens, ils ne connaissent pas. Donc, c'est important de maîtriser, parce que tu as des grandes récompenses. Il a dit, le prophète, une grande récompense. Le prophète, il a dit, il a la récompense de combien? De 50 compagnons, dans le hadith. Si tu ordonnes le bien, interdis le mal dans l'époque où il y a la corruption de la communauté. Et on est dans cette époque. Il a dit clairement, il a la récompense de 50 compagnons. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile maintenant. Les gens vont comprendre. Ils sont plus intelligents, etc. Et en plus, les gens, c'est difficile s'ils se croient intelligents. Il y en a, il vient prier, il me dit, ah, maintenant, c'est pas comme avant. J'ai rigolé. J'ai dit, attends, les compagnons, c'était très intelligent. Les gens croient intelligent parce que tu sais, tu as un compte Facebook, tu as Snapchat, tu fais clic là, c'est pas ça qui fait que tu es intelligent. C'est pas parce que tu sais cliquer là et là et utiliser un téléphone que tu es intelligent. C'est pas ça. Les gens croient que ça y est parce que tu as un portable, tu sais mettre la chaîne, régler la parabole. Ah, je dis, lui, il connaît. Soi-disant, il est devenu ingénieur parce qu'il sait m'a régler la parabole et ouvrir un compte sur Facebook. C'est pas ça. C'est pas ça l'intelligence. Donc je lui ai remis. Il fallait lui expliquer. Et là, je dis non. Comment dire, remettre en place la personne. Il ne faut pas qu'il comprenne qu'on est plus intelligent que des compagnons. Et il pensait un peu comme ça. Parce que voilà, il y a la modernité. Non, c'est pas ça l'intelligence. Dieu dit dans le Coran, Ya'lamouna zahira min al-hayati dunya, wa hum al-akhirati mughafiloun. Un verset. Dans Sourate Ar-Rum, il parle des mécréants. Il connaît les choses de cette vie, mais il ne sait pas les choses de l'au-delà. Il voit, hop, il va savoir fabriquer, mais il va adorer une statue. Et ça, c'est une stupidité. Comment tu t'humilies à une statue que toi, tu as fabriquée? Un savant, il a dit une belle phrase. Il a dit, mais l'adoration, c'est. Que la créature, elle adore le créateur pour une chose, c'est-à-dire comment dire, en fait, c'est-à-dire parce que le créateur lui a donné quelque chose. C'est-à-dire parce que le créateur lui a donné quelque chose, il lui a donné l'existence. Elle dit, c'est logique, mais que la personne adore quelque chose, c'est elle qui l'a fait. Il a dit ça, c'est stupide. C'est-à-dire, toi tu l'as fabriqué et toi tu l'adores. C'est toi qui lui as donné la chose et toi tu l'adores. C'est stupide. Tu adores le créateur parce que le créateur il t'a donné la vie. C'est logique. Mais tu adores quelque chose, c'est toi qui lui as donné quelque chose. C'est-à-dire, c'est toi qui lui as donné quelque chose et c'est toi qui l'adores. Mais il a dit ça, c'est stupide. Non. Voilà, c'est pour ça, c'est la ça l'intelligence. Tu connais le Créateur selon ce qui est digne de lui, et tu as compris le sens de cette vie. Tu es une créature, et tu vas rendre des comptes, et que tu n'es pas là absurdément. Donc, ils ne subissent pas d'injustice. Donc, ça c'est à retenir. Donc, c'est le dernier verset révélé. Donc, 281 sourate Al-Baqarah. Et le sens, il est très intéressant. D'accord? Donc, La ayah « وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ » signifie « et que sais-tu de la nuit de l'Qadr » manifeste la haute importance de cette nuit bénie. Assurément, la nuit de la grande valeur est une nuit imminente. Elle est meilleure que mille mois. Allah Ta'ala dit « خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ » ce qui signifie « la nuit de l'Qadr est meilleure que mille mois ». Cela veut dire que les bons actes effectués durant cette nuit bénie ont, selon le jugement de Allah, une grande valeur car ils sont meilleurs que les œuvres de mille mois. C'est-à-dire mille mois sans Laylat al-Qadr. Sinon, bah, tu rentres dans, dans une boucle là. Voilà, c'est logique. Donc, celui qui a le privilège de voir en étant éveillé certains signes de la nuit de grande valeur aura gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit, car il est des signes par lesquels la nuit de la grande valeur se distingue. Ainsi, la personne qui la voit, voit alors des lumières autres que celles du soleil. Donc, ils ont dit, c'est une grande lumière. C'est pas une simple lumière comme ça. Parce qu'il peut y avoir des choses, des lumières de Ramadan. C'est une grande lumière, tu vois, comme c'est le jour. Ça arrivait, des gens, ils ont vu. Et ils voient les arbres en prosternation. Ils voient les anges. Et les anges, c'est... ils leur parlent, ils leur serrent la main. Donc, la voix des anges, qu'elle voit les anges sous leur véritable aspect. En effet, les anges ont des ailes 2, 3, 4 paires ou davantage que cela. Par exemple, Jibril alayhi salam possède 600. Donc, bien sûr, on sait, les anges peuvent aussi prendre l'apparence d'un homme sans organe mâle. Ils ne prennent pas l'apparence de femme, d'accord ? Ils ne sont ni mâles ni femelles, les anges, comme on sait. Ils peuvent prendre aussi l'apparence d'un bel animal, un bel oiseau, chameau. J'ai vu une fois, quand il y avait un mécréant, il voulait jeter une pierre sur la tête du prophète. Il est venu avec un grand chameau. Il a fait peur au mécréant. Et donc il s'est enfui. Mais ils ne prennent pas l'apparence de chien ou des choses comme ça, de serpent. Les djinns, oui. Les djinns, ils aiment bien l'apparence de chien noir, etc. Ou serpent. Les anges, ils ne prennent pas ces apparences-là. Il y a une raison, bien sûr. Bel oiseau, certains, ça arrivait à un enfant, il est tombé de haut, et il a dit, il y avait un oiseau qui m'a pris, il n'a rien eu, l'enfant. Donc, ils ont dit, ça va, c'est un ange. Donc, le fait de voir certains de ces signes en songe, dans le rêve, est un grand bien, mais cela reste moins important que si cela se passe à l'état d'éveil. Par ailleurs, si quelqu'un ne voit rien pendant cette nuit-là, ni en songe ni en état d'éveil, mais fait des efforts en priant, en accomplissant d'autres sortes d'adorations pendant la nuit de la grande valeur, sans savoir si c'est bien elle, il aura gagné parmi ses imminentes bénédictions les récompenses pour les actes d'adoration accomplis par lui durant cette nuit-là. Donc, s'il fait toutes les nuits, il va coïncider forcément. Donc, la personne fait des efforts, toujours avec la bonne intention. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Ce qui signifie celui qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de l'Qadr, parfois et en recherchant uniquement l'agrément de Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc la veille en adoration durant la nuit de la grande valeur s'effectue en accomplissant la prière, que le nombre des rak'as soit petit ou grand. Cours de religion, prière, évocation, voilà, rattrapage de prière, priorité, rattrapage. Donc s'il a des prières à rattraper, donc il est à savoir que la prolongation de la prière en récitant le Coran est meilleure que la multiplication du nombre des prosternations sans faire de longues récitations. Il peut réciter longuement, même s'il prend le livre, c'est valable, comme on le sait. Du moins qu'il s'est récité. Donc, il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة أي جماعة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله فينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. Ce qui signifie, lors de la nuit de l'Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges pour toute personne debout, assise, occupée à évoquer Allah. Ils implorent la miséricorde de Allah en sa faveur et la saluent. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Ils descendent donc pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année, tel que la répartition de la subsistance aux créatures et le terme de leur vie, et ce jusqu'à la nuit de la grande valeur de l'année suivante. Donc bien sûr, tout est prédestiné par Dieu, mais Dieu informe les anges, en fait, de certaines choses jusqu'à la nuit de l'année prochaine. Mais bien sûr, Dieu ne dépend pas du temps, ses attributs ne dépendent pas du temps. Donc, voilà, donc, donc Aïcha, Allah l'agré, a dit, « Qultu ya Rasulallah, in alimtu laylat al-qadri, ma aqulu ?» Ce qui signifie, j'ai dit au messager de Allah, si je réussis à reconnaître la nuit de l'Qadr, que pourrais-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Quli, Allahumma innaka afoun tuhibbu l'afwa, fa'afwa anni. Donc, répétez, plusieurs fois, chaque nuit, comme ça, tu coïncides. Allahumma innaka afoun tuhibbu l'afwa, fa'afwa anni. Fa'afu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbu l'afwa, fa'afu anni. Allahumma, avec la bonne attention, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Ce qui signifie, dit oh Allah, donc le sens, oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées le repentir, alors pardonne-moi. Et le prophète, donc l'invocation qu'il disait souvent pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous une grâce dans la vie d'ici-bas, une grâce dans l'au-delà, et préserve-nous du supplice du feu. Rabbana atina. Atina. Deux temps. Atina. Ah. Tu envoies un message. Rabbana atina. Atina. Donc c'est atina. C'est ça le mot. Rabbana atina. Parce que si tu enlèves la prononciation, ça fait atana. Non, ouais, ça change. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est clair? Voilà. Donc, c'est clair pour vous? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqna wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana, ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله